compagnie d'Henri de Saussure, vous avez eu chaud, vous avez eu même très chaud dans ces terres que nous avons abordées, d'abord aux Antilles, ensuite du côté de Veracruz, dans ces terres tropicales du Mexique. Et aujourd'hui, nous avons envie de grimper. Nous avons déjà découvert le pic d'Orizaba, nous avons vu ces paysages enneigés, avec aussi cette impression d'altitude étrange, cette clarté de l'air, cette perfection de la nature, ces changements aussi de nature qui passent de la forêt de pluie à des pins, à des sommets qui feraient plutôt penser à des terres jurassiques. Et finalement, nous allons monter maintenant jusqu'à 2300 mètres d'altitude en compagnie d'Henri de Saussure. Là, vous êtes en 1854, 55, 56. Un siècle qui a vu passer l'histoire du Mexique de façon très accélérée, avec des grands changements. Il y a notre compagnie, Louis Droguin et Claude Weber, qui se sont penchés sur une écriture extrêmement fine, celle de cet homme, de ce Genevois, qui découvre, quelques années après de Humboldt, après ce baron de Humboldt, des terres et un Mexique, ces terres froides, peut-être fort différentes de celles qu'il avait rêvées, surtout par l'accueil, et puis quand même par la construction, l'architecture, la nature elle-même. Il y a certains jours où tout lui est rebelle. Louis Droguin, dites-moi, quand on arrive à Mexico en 1855 et que l'on découvre à la fois une politique extrêmement échevelée avec des allures de révolution, des problèmes de généraux, des changements politique qui nous impressionne, comme ils vont nous impressionner jusqu'à pratiquement à la fin de la Révolution mexicaine, c'est-à-dire plus de 50 ans plus tard. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résider dans une capitale telle que Henri de Saussure va en fait non seulement la rencontrer, mais y vivre finalement? Avec qui est-ce que vous aimeriez dialoguer peut-être en arrivant dans une ville comme celle-là, si vous étiez de Saussure?
De Saussure avait vécu des instants un peu difficile avant d'arriver à Mexico, et son plus grand plaisir, sa plus grande impatience était de rencontrer des gens de la société. Alors il cherchait des gens des bonnes familles, des diplomates, des princes, des comtes, et il ne trouvait de bonnes sociétés selon ses critères qu'auprès de ces gens-là et non pas auprès de vrais Mexicains.
Alors curieusement, comme il s'est intéressé d'abord aux étrangers, Claude Weber, est-ce qu'on peut dire que le fait d'être installé chez un consul ou d'aller manger un soir chez un ministre ou d'imaginer un général qui là aurait pu être mexicain éventuellement, ces rencontres dans une capitale comme Mexico, est-ce que ça paraît un peu désuet par rapport à l'accueil qu'a eu Humboldt quelques années auparavant?
C'est peut-être un des seuls points où il retrouve un peu la vie que Humboldt avait eue. C'est-à-dire qu'il peut se montrer, voir le ministre de l'Intérieur, discuter avec l'ambassadeur de France. Enfin, il retrouve un monde qu'il avait peut-être déjà subodoré dans les textes de Humboldt.
Il a des aventures même avec ses suivants, c'est-à-dire qu'en fait, Henri de Saussure, pour ceux qui ne le connaissent pas, décrivez-le-moi un peu, essayons de le voir arriver à Mexico avec sa petite troupe et imaginons-le parti de Suisse, parce que c'est vrai que certains d'entre nous, certains d'entre vous qui nous écoutez, n'ont pas forcément connu le début de l'histoire.
Bien depuis le départ, sa tenue a fort changé, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Mexico avec une barbe rousse de plusieurs mois, son paletot de volcanologue, où il met avec un nombre de poches extraordinaire, où il met tous ces échantillons de minéraux, de pièces de, disons, chaque fois qu'il va sur un volcan, il ramasse des éléments, des échantillons pour les mettre dans ses poches et ensuite les mettre dans les caisses qui seront renvoyées sur Genève. Et évidemment, quand il est arrivé à Mexico, son paletot était tout rongé par les acides volcaniques. Enfin, il devait avoir triste allure. Et un de ses compagnons n'avait même pas une deuxième veste. Il était avec un vieux paletot complètement déchiré. Et arrivant à Mexico, ils ont retrouvé les caisses qui avaient été envoyées par avance avec leurs habits de citadins.
C'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient l'air un peu sauvages. Ils ressemblaient plus à ces films de cow-boys où il n'y a que de la poussière et où on porte ces manteaux impossibles à délaver. Et puis finalement, l'ouverture de ces caisses, c'est la révélation de retrouver un gilet, de pouvoir se remettre des couleurs rouges, du noir. Ils ont des allures extraordinaires. Ce sont des Genevois. ce sont des Genevois et qui se comportent en Genevois à Mexico. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Henri de Saussure, c'est quand même un naturaliste qui est parti de Genève et qui a décidé de faire une expédition.
Ouais, c'est tout à fait ça. Il découvre son uniforme. Mm-hmm. C'est fantastique d'imaginer qu'un Genevois part au Mexique avec son uniforme. Il va pouvoir mettre son uniforme à Mexico. Et son domestique retrouve sa livrée.
Mais un Anglais faisait la même chose, un Français faisait la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, on était très hétéroclite dans la façon de s'habiller, même si tout venait de Paris, de Londres ou d'ailleurs.
Je ne sais pas. Disons que pour lui, je pense que l'important, c'était de retrouver ses références, en fait, de se retrouver comme il était à Genève, et de retrouver des gens qui lui ressemblaient, qui parlaient la même langue, qui avaient les mêmes priorités. Et il était nettement plus à l'aise avec cette société. En revanche, Mexico l'a énormément déçu parce qu'au fond, toutes ses recherches s'arrêtaient là. C'est-à-dire que, par contradiction, il aimerait bien partir de Mexico pour continuer ses découvertes.
Mais est-ce qu'il avait vraiment une passion par rapport à cela? C'est-à-dire qu'au fond, quand il arrive en haillon à Mexico, il n'est pas content non plus. Donc en définitive, à quel moment est-ce que sa passion reprend le dessus par rapport à une vie qui ne lui convient pas non plus à Mexico?
C'est-à-dire que je crois que dans la société, il s'ennuie très vite. Il est beaucoup plus sujet à s'enthousiasmer avec des découvertes de montagnes, d'insectes nouveaux ou d'oiseaux. Alors qu'à Mexico, une fois qu'il a fait le tour de la ville, il s'ennuie.
Quand il parle des Mexicains, il n'est pas très sympathique là, quand il parle de ceux de Mexico. Prenez un peu l'allure de la ville telle que vous l'avez ressentie. Donnez-moi simplement le coup d'œil que vous ressentiriez selon l'œil d'Henri de Saussure, Louis de Roguin.
Comment est-ce que vous auriez... Oui. D'Henri de Saussure était la déception de voir cette ville très vieille, à tous les sens du terme, très vieillie, très abîmée, sa cathédrale à moitié en ruine, des monuments mal replâtrés. C'était sa grande déception.
Est-ce que vous vous rappelez d'une comparaison avec une autre ville du Mexique qui serait aussi en haute terre, qu'il aurait visité et qu'il appréciait? Puebla, par exemple?
Puebla, il a beaucoup aimé Puebla, trouvé une ville magnifique et encore en très bon état.
C'est vrai qu'il n'y avait pas encore eu de gros problèmes militaires non plus à Puebla. Mexico avait quand même un peu plus souffert déjà des problèmes de l'époque, en définitive.
Oui.
Il l'a ressenti un peu plus attaqué et un peu plus délaissé que Puebla, qui est une ville coloniale superbe, très riche, dans une région beaucoup plus riche. Par rapport à ses contacts avec les étrangers, avec les Mexicains, est-ce que vous auriez une anecdote amusante à propos de ses employés ou des gens qui l'ont accompagné, qu'ils auraient vécu à Mexico et qui paraissent très typiques de l'époque? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec, je ne sais pas, l'armée ou...
Oui, il rencontrait des officiers de l'armée mexicaine et il leur demandait d'aller chercher des roses dans le jardin. Ces officiers se pliaient à son ordre comme s'il était lui-même un général.
Claude Weber, quand on a la puissance de Saussure, parce qu'il le sentait bien, là, l'exemple que vient de nous donner Louis de Roguin est tout à fait typique. Il se moquait volontiers des Mexicains en disant que même, par exemple, un de ses valets qui avait été enfermé avait pu être sorti simplement par le côté un peu hautain qu'on peut avoir lorsqu'on est européen.
Absolument. Il tenait beaucoup à son attitude vis-à-vis des Mexicains et il savait qu'il pouvait obtenir beaucoup. Ne serait-ce que par sa stature, mais il avait aussi une autorité naturelle, probablement. Et à propos de son valet qui avait été ramassé par la presse, c'est-à-dire par l'embauche obligatoire à l'armée, par des soldats qui sont payés en fait pour trouver le maximum de monde.
Donc,
ramasse tout le monde. Alors lui, il va à chaque fois chercher son valet en disant quand même, il pourrait éviter de... il aurait pu lui mettre un grand coup de pied dans le ventre et puis il s'en serait tiré plus facilement.
C'est-à-dire qu'il a lui-même une agressivité assez remarquable.
Absolument, oui, tout à fait. Mm-hmm. Et il a eu un peu plus tard aussi des mailles à partir avec une troupe de prononcés, de révolutionnaires. Et là, il était alors cinglant. Ôtez-vous de mon chemin, enfin c'est fantastique. Il a absolument aucune crainte, alors que ses compagnons sont plutôt timorés, craintifs, prêts à sortir tout de suite un sauf-conduit. Lui, non. D'abord, il faut impressionner et on passe de force.
Il y a plusieurs passages où on ressent cette attitude presque un peu guerrière de sa part. En fin de compte, il fait souvent les références à l'armée ou à une espèce de puissance qui lui est due pratiquement. Est-ce que vous le sentez raciste? Là, je suis un peu taquin par rapport aux Mexicains. tout au long du parcours que vous avez vous-même rédigé, autant l'un que l'autre, je veux dire rédigé, c'est-à-dire avoir lu des lettres aussi intimes, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, ce sont vraiment des lettres qu'il a écrites depuis le Mexique à sa tante, à sa famille, etc. Est-ce qu'on sent chez Henri de Saussure autre chose que de l'humanité par rapport au Mexique, hein?
C'est très compliqué, c'est entre le yin et le yang. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a une attitude raciste, d'un côté, totalement raciste, et d'un autre côté, il se dit... Les Mexicains, ça devait être... Le Mexicain devait être quelqu'un de fantastique auparavant. Et que les circonstances de la vie, que l'occupation espagnole, qui était très, très bonne d'un côté, il l'admire dans certaines lettres, et de l'autre côté, il estime que ça a peut-être détruit cet esprit mexicain indien, qui subodore comme étant quelque chose de fantastique.
Ça, il a de l'admiration pour le côté indigène. Parce que, par exemple, lorsqu'il visite un des quartiers de Mexico, là, je pense à Chapultepec, imaginons Chapultepec aujourd'hui. C'est vrai que c'est peut-être un des plus beaux parcs de la capitale. Au centre, il y a un endroit que tout le monde connaît, le musée d'anthropologie, qui a été construit vraiment comme on doit construire aujourd'hui, avec les moyens contemporains, c'est-à-dire en épargnant tous les arbres. On a d'abord fait une maquette en bois, et ensuite on a construit cet incroyable musée. Et puis juste à côté, on voit, en levant les yeux, un palais qui n'existait pas encore à l'époque d'Henri de Saussure. C'est ce qu'on appelle le palais de Chapultepec, mais aussi le château de Maximilien, c'est-à-dire cette formulation qui va arriver à peine 10 ans plus tard. Et il a connu un Chapultepec complètement abandonné, avec des ruines. Et il savait que c'était l'endroit où l'empereur Montezuma avait fait un palais. Et là, il a beaucoup d'admiration, comme vous le dites, pour le côté précolombien. On sent qu'il apprécie le passé indien. On le verra aussi au cours de notre voyage d'aujourd'hui, à travers les ruines et les différents éléments, même la cuisine qu'il a découvert. Est-ce que vous pensez que ce respect était justifié? Il s'est intéressé au manuscrit, ce qui était nouveau aussi. Racontez-moi un peu comment il a découvert un manuscrit précolombien.
Alors, les manuscrits précolombiens étaient une de ses hantises. Enfin, il voulait absolument en ramener. Ça a été quelque chose de, pour lui, de très important de pouvoir revenir avec un codex ou un lienzo. Malheureusement, soit par son attitude, soit à l'époque, a voulu que ça a été impossible. Alors il s'est passionné. Il était tellement passionné qu'il en a fait des calques. Simplement, il s'est dit, puisque je ne peux pas ramener les originaux.
Il a copié en fait des livres anciens, des livres précolombiens, mais avec une précision qui semble presque diabolique.
Originale, c'est-à-dire qu'il a pris du papier à lettres, normal.
Papier ordinaire, oui.
Papier ordinaire qu'il a huilé, et il a passé le crayon par-dessus son papier huilé pour retrouver les dessins exacts d'original. Et il a pris une palette de couleurs, et pour chaque partie colorée de ses manuscrits, il s'est donné la peine de faire une touche de couleur pour indiquer exactement la composition de chacun de ces documents.
De Louis Droguin et de Claude Weber. Nous avons pris en fait la plume, une plume extrêmement acide, parfois je dirais caustique, de cet homme qui est Henri de Saussure. Henri de Saussure, c'est à la fois un personnage qui nous ferait penser à nos grands Genevois. J'ai envie de parler de... Il y a des moments un peu Rousseau dans sa description de la nature. Il y a des moments très Voltaire dans sa description des personnages. Et puis il y a aussi un peu de Töpfer, parce qu'à l'instant où il dessine, on s'imagine aussi sa connaissance de quelqu'un qui venait d'inventer un peu la bande dessinée. Et tout à l'heure, avec Claude Weber, nous évoquions ses livres précolombiens. Ces livres qui devaient se trouver dans toutes les grandes bibliothèques, dans tous les palais précolombiens, et qui se pliaient en général en accordéon ou éventuellement comme des draps de Castille selon le thème ou le type d'ouvrage, et qu'un homme comme cela, qui est jeune en fait, se passionne à la fois pour le passé, pour le côté naturaliste, et refasse complètement le voyage de Humboldt, et le décrive ainsi à sa famille, lettre après lettre, c'est quelque chose d'assez scientifiquement curieux. Je veux dire par là que c'est un homme qui est extrêmement solide, qui nous donne déjà l'impression d'être extrêmement adulte aussi dans son fonctionnement, bien qu'il ait des hauts et des bas. Comment est-ce que vous ressentez son caractère, le caractère même de l'homme, Louis d'Orguin? Comment est-ce que vous seriez à la place d'Henri de Saussure? Est-ce que vous vous sentez constant ou au contraire très en dents de scie dans un voyage comme celui-là?
Il avait des passages à vide, ça c'est évident, suivant les conditions dans lesquelles il devait vivre. Mais c'était un homme très sûr de lui, très sûr de sa situation familiale, de ses privilèges, et très fier de son origine européenne. Et il était surtout très sûr de lui par rapport à ses compagnons de voyage. Et autant Sumikras qu'Henri Perrault étaient souvent assez timorés. Et de Saussure a une fois cette remarque assez cinglante. « Ah, si j'avais un autre moi pour voyager avec moi, nous passerions le Styx. »
C'est-à-dire qu'en définitive, il est sûr qu'il lui faudrait son double pour pouvoir ainsi découvrir tout ce qu'il n'a pas vu et vaincre tout ce qu'il n'a pas vaincu au Mexique. Est-ce qu'il a réussi à passer les caps qu'il voulait passer, Louis de Weber?
Pas tout à fait, c'est-à-dire que...
Je vous ai confondu là, hein. Je vous ai appelé Louis de Weber, c'est joli quand on a deux personnes comme ça, on finit par confondre. Non, c'est bien Claude Weber.
Pas tout à fait, il a voulu faire un trajet plus large et en fin de compte, à Mexico, il s'est offert un instant de réflexion. Il envisageait même de partir pour l'Équateur.
Ça, c'est un moment de déprime. C'est-à-dire que quand il part pour l'idée de l'Équateur, c'est parce qu'il a lu une fois de plus Humboldt et qu'il se dit qu'au fond, l'Équateur est le pays le plus beau du monde. Obligatoirement, il rêve sur ce pays. Je crois qu'il aurait été tout aussi déçu de l'Équateur que du Mexique. Qu'en pensez-vous?
Probablement pas. Non. En fait, il a appris à Mexico que les États qu'il allait traverser étaient en révolution totale. Et il appréhendait le fait qu'il faille traverser des lignes d'armée. Il s'est dit, tant qu'à faire, partir en Équateur, pays plus calme, politiquement plus stable, ça ne serait pas une mauvaise affaire.
Mais ma question était très précise, c'est-à-dire, est-ce qu'un Henri de Saussure, tombant dans le système économique de l'Équateur, même avec le calme apparent de l'époque, ne se serait pas plaint, n'aurait pas envoyé des lettres assez semblables à celles du Mexique?
Moi, je pense que c'est les conditions du voyage qui l'ont rendu un peu
impériâtre.
Mm-hmm. C'est plus ça que la réalité de l'attitude des Mexicains. C'est-à-dire que c'était en plus, probablement. Alors que dans d'autres régions, il n'a pas eu cette attitude très agressive. Quand il était du côté de Veracruz ou entre Tampico et Veracruz, le voyage s'est passé de façon beaucoup plus facile, malgré les conditions climatiques. En fait, ça l'effrayait moins que certains détails d'armée ou disons de délaissement total de toute structure politique où plus rien ne se fait. Là, alors, c'est pour lui, c'est une catastrophe. Et on ne peut pas avancer dans le travail, on ne peut pas faire son travail de naturaliste. Et ça a dû le mettre dans un état second, en fait.
Ça a dû carrément le traumatiser. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a une certaine prémonition. On parlait tout à l'heure de Chapultepec et de ce seul rocher qui se trouve en fait au centre de ce qu'était la lagune de Mexico, Tenochtitlan, qui est la capitale, qui est maintenant complètement pleine, cette immense cuvette. Et il disait que les Mexicains étaient assez peu conscients de ce qu'ils avaient de beau chez eux, et ils n'aimaient pas les arbres. Il y avait des forêts extraordinaires qui l'ont touché dans ce bois de Chapultepec, et ce sont certainement les ahuehuetes, ces arbres qui sont des taxodiums, si ma mémoire est bonne, et qui ont des troncs énormes, et on en retrouve certains qui ont plus de 2000 ans dans les terres de Oaxaca, par exemple. Ça l'a beaucoup touché. Là, on sent le côté naturaliste. Il admire cette forêt incroyable en pleine ville ou en bordure de ville, parce qu'à l'époque, elle n'était pas aussi peuplée qu'aujourd'hui. Et puis là, il imagine sur ce rocher qu'on devrait faire un superbe château ou un point de vue, et il tombe au contraire dans des ruines absolues. Et curieusement, quelques années plus tard, il y aura une construction à ce sommet.
Donc, il a vu le palais présidentiel.
Il imaginait que le président devrait vivre là-haut.
Absolument.
Et finalement, c'est un empereur qui est venu s'installer là-haut.
Un empereur à qui il a fourni d'ailleurs la carte du Mexique, qui n'existait pas, une carte détaillée du Mexique.
Là, vous pensez à Maximilien.
À Maximilien, oui.
C'est une frégate qui part de Trieste et qui fait un peu le même voyage d'ailleurs que celui d'Henri de Saussure, mais avec une jeune femme très belle, Charlotte de Belgique, Et ils arrivent aussi à Veracruz. Il y avait aussi des épidémies de fièvre jaune et des problèmes. Le carrosse est monté jusqu'à Mexico et un jour ils s'installeront ici dans ce château de Chapultepec, assez sec, assez curieux, assez néoclassique déjà, avec un point de vue merveilleux sur cette immense vallée de Mexico. Il fait 7 à 8 degrés ce matin, le soleil vient de se lever sur les volcans. Vous voyez le Popocatépetl, l'Itzacihuatl, qui est allongé comme une femme blanche à côté de son amant. Et un homme qui, dans ces ruines étranges de Chapultepec, là en 1855, rêve d'avoir construit ce château, cette avenue, un peu comme les Champs-Élysées, qu'on appelle aujourd'hui la Réforme, et qui monte jusqu'au cœur de la ville, une ville qui devait encore scintiller avec quelques soupçons de lac à l'horizon, pas d'avion. Simplement un carrosse, quelques chevaux, un peu de poussière, un ciel bleu, bleu profond, comme on les a au Mexique. Louis Droguin, il faut vivre aussi, selon Henri de Saussure. Il a été invité à Mexico à certaines tables chez des gens d'une certaine classe. Et là, il a retrouvé un peu la cuisine à l'occidentale. Mais au cours de ces aventures, on sent qu'il mange surtout de la tortilla, enfin, ces galettes de maïs comme on en mange encore aujourd'hui au Mexique, énormément de frijoles, c'est-à-dire ces haricots rouges qui sont cuits plusieurs heures dans une cruche et qu'on vous sert soit en soupe, soit carrément en demi-jus comme cela, ou éventuellement en purée avec un soupçon de vieux fromage bien acide posé par-dessus ou un peu de crème. Et puis, il y a un passage assez extraordinaire où il nous décrit, là on évoquait tout à l'heure les grands palais de l'époque aztèque et puis cette vallée de Mexico et puis surtout l'eau, ces marais qui recouvraient complètement cette vallée à l'arrivée des Aztèques et qui existaient encore au moment où il est arrivé. Et souvent il nous décrit d'ailleurs des terres très marécageuses ou des lacs, nous irons peut-être tout à l'heure du côté de Pátzcuaro. Et il parle aussi de ce qu'il mangeait. Et ce sont des plats qu'on peut encore déguster aujourd'hui si vraiment on cherche au fond d'une petite rue près de la Merced. La Merced, c'est le plus gros marché où l'on retrouve tous les produits du pays. Et là, il y a tout à coup un petit restaurateur plus malin que les autres qui découvre que certains produits sont arrivés de l'extérieur, justement de la région de Pátzcuaro ou d'un lac qui ressemble encore à ces lacs anciens. Et on peut y manger des galettes, ce qu'on appelle des galettes fabriquées avec des œufs de mouche. On peut y manger des petites punaises bien rôties, on peut déguster quelques sauterelles, on peut aussi manger cet étrange animal qu'on ne voit qu'au Mexique. Je ne sais pas si vous le connaissez, Louis Droguin, c'est ce qu'on appelle sur place l'axolotl. L'axolotl, c'est une espèce de salamandre, mais vous la décririez mieux que moi. Puis ensuite, on parlera un peu de ce qu'on mange, justement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si justes que cela dans les descriptions de Saussure.
Oui, l'axolotl, c'est effectivement une sorte de salamandre qui est tout à fait spéciale à cette région. Et c'est une sorte de forme larvaire attardée qu'on appelle néoténique. Donc ce n'est pas une forme adulte finie, terminée. L'animal se reproduit à l'état larvaire.
Oui, alors il faut le voir parce que c'est assez curieux d'imaginer ce qu'est cette salamandre. Parce que moi, je l'ai vu quelquefois parce que c'est un animal étrange. On a l'impression qu'il est aveugle. On a l'impression qu'il a, bon, il a effectivement quatre pattes, mais il ressemble en même temps à un étrange poisson. Il y a une couleur un peu délavée, presque rosâtre, blanchâtre. Vous parliez de larves. Et pour le précolombien, c'était un animal un peu mythique qui était entre deux états, justement. Un peu comme l'idée de la chrysalide. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement à quel moment il va devenir. Salamandre hors de l'eau ou s'il est encore poisson. Et ça a beaucoup touché les précolombiens. Ça se mange, bien sûr, mais c'est un animal assez rare, en fait. Pour vous, comme naturaliste, est-ce que vous l'avez déjà vu dans un bocal ou est-ce qu'en
saussure,
on a ramené... est-ce qu'il envoyait, comme cela, des échantillons? Est-ce qu'il a pris avec lui certains échantillons sur le plan animalier?
Oui, il a pris beaucoup de spécimens, bon, surtout des poissons et surtout des insectes. Mais il a ramassé aussi des reptiles, des batraciens, il chassait des oiseaux. Nous avons également encore en collection au musée des mammifères qu'il a ramenés.
Parce qu'il faut le dire, Louis Droguin et Claude Weber, vous travaillez au Muséum d'histoire naturelle à Genève. Est-ce que la collection de Saussure est encore une grande collection pour vous? Est-ce qu'on peut encore, à partir de... Je ne sais pas, si vous aviez envie de vous lancer dans la gastronomie mexicaine, est-ce que vous pourriez retrouver ces œufs de mouche qu'il a mangés un jour ou l'autre et puis vous dire qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des mouches de la zone de Texcoco, mais que ce sont au contraire des punaises aquatiques qu'il nomme d'ailleurs dans son livre des nappes. Claude Weber.
Les nappes, effectivement, les collections d'insectes sont totalement présentes au musée, alors que le reste pose des problèmes de dispersion. Les oiseaux sont probablement mieux représentés au musée de Neuchâtel qu'au musée de Genève. Peut-être il les a vendus ou il y a eu un échange, je ne sais pas. Les mammifères que nous avons au musée proviennent plus de sumicrastes qui étaient restés au Mexique et qui sont postérieurs au voyage que du voyage même.
Mais dans des évocations comme on vient de l'avoir où il nous dit « je mange de l'iguane avec des petits pois jaunes », est-ce que par hasard il aura envie de vous empailler sur place un iguane pour que nous l'ayons dans un musée comme
le nôtre? Nous ne sommes pas les vérifier dans les collections, mais probablement qu'on peut trouver des iguanes à pois jaunes, c'est pas impossible. C'est tout à fait dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que...
Là, je vous taquinais, quand il marque l'iguane, c'était aux petits pois jaunes, c'est-à-dire qu'il les mangeait avec des petits pois jaunes.
Est-ce que c'est les petits pois jaunes ou bien c'est un iguane à pois jaunes?
Non, à mon avis, je crois qu'il les mangeait avec ses pois chiches, assez curieux, parce que l'iguane se mange un peu comme on mange le poulet, et c'est une viande absolument délicieuse. Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas pu vous l'envoyer, mais je pense que chaque fois qu'il décrit une chose comme ça, même les petites punaises aquatiques de tout à l'heure, c'est une chose qu'il a dû vouloir obtenir. J'essaie d'imaginer sa vie, parce que quand il envoie une simple lettre sur la gastronomie mexicaine et qu'il dit qu'on va être ennuyé, là il parle à la personne à qui il envoie la lettre en parlant de gastronomie, etc. Bon, au contraire, nous ça nous intéresse énormément parce que ce sont des choses qui restent éventuellement mais qui en même temps sont totalement exotiques. Alors en même temps, est-ce qu'il est naturaliste? Est-ce que cette observation va plus loin, Louis de Roguin?
D'abord, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait dégusté tous ces plats dont il parle.
Il a tort parce que c'est délicieux.
Oui.
Parce que la galette de mouche dont il parle, ça ressemble à un hamburger dans l'allure, mais c'est d'une finesse extrême et c'est servi avec une sauce bien piquante et peut-être un tout petit soupçon de chocolat amer avec quelques piments supplémentaires. C'est un vrai délice. Et puis les pattes de grenouille gigantesques qu'il décrit, par exemple, en beignet, je vous assure, moi je me relèverai pour aller en manger. Donc moi j'ai l'impression qu'il a goûté tout cela parce qu'il le décrit trop bien. Quand il parle de la matelote de salamandre, c'est vraiment comme cela que ça se sert. Et non, je crois qu'au contraire, là, ce que je vous posais comme question, c'est de savoir si la curiosité du dégustateur, par exemple, était immédiatement doublée de celle du naturaliste.
En fonction de l'endroit où il était, oui. Quand il pouvait se procurer au marché, par exemple, il demandait à Sumicrast ou à son domestique d'aller chercher ces différents animaux.
Donc les produits, Claude Weber, qu'il avait... pouvait se retrouver n'importe où, à n'importe quel moment. On récolte tout ce qu'on trouve, en fait, dans un voyage.
On va faire le marché, on met ça en alcool, on envoie à Genève, le paquet, tout fait.
Donc, il mettait ça dans des petits bocaux?
Oui, dans des caisses, bocaux, caisses, et le paquebot. Et tout se retrouvait à Genève.
On renvoyait systématiquement les caisses jusqu'à Genève. J'aurais bien voulu voir son écriture sur une étiquette. Muséum d'histoire naturelle, Genève.
C'était plutôt envoyé à sa famille via la famille Barbet à New York.
On peut toujours rêver, mais Barbet New York, c'est pas mal non plus. vous vous appelez Henri. Vous faites partie d'une de ces grandes familles genevoises, les de Saussure, et vous êtes sur un plateau d'une sorte de montagne avec de belles prairies. Des prairies, vous les voyez, on se dirait en Suisse. Et là, on a l'impression aussi qu'il y a quelques sommets comme ceux du Jura, sauf peut-être ces cônes de volcans qui se succèdent les uns derrière les autres, comme un écran à l'horizon, ces immenses coulées aussi. C'est bien sûr du basalte. Si vous êtes Henri de Saussure, vous aurez envie de le décrire. Vous êtes un peu vulcanologue, vous étudiez tout cela. Et vous voyez aussi ces nappes qui descendent comme de ces cônes, à flanc de coteaux comme cela, jusqu'au fond de ces vallées. Et tout cela se superpose. Et ce qui lui paraît curieux, c'est que cet endroit qui devrait ressembler à la Suisse est complètement désert. Qu'en fait, il n'y a même pas un troupeau, il n'y a pas de berger, il n'y a absolument rien. Et la seule figure qu'il nous décrit, c'est ce cavalier. Un cavalier mexicain, tout habillé de cuir, sur son cheval, bien sûr, avec... Il donne une description aussi de ce visage étrange. On imagine ce côté brun, très buriné. Et puis, nous sommes en 1850, deux énormes rouflaquettes sur les côtés. Enfin, une barbe ou éventuellement une large moustache bien taillée. Et tout à coup, là où vous étiez complètement au Mexique, on avait presque envie de mettre le chapeau à large bord, il voit un village. Un village, et il le décrit comme un village bernois. Vous êtes en plein canton de Berne, on sent le vert, on sent cette nature d'altitude, cet air un peu piquant, un peu frais. Et quand il s'approche, là la description devient beaucoup plus dure, il découvre au contraire un misérable rancho qui est habité par des Indiens complètement nus. Quand on décrit ces doubles faces, Claude Weber d'Henri de Saussure, quand il décrit un paysage du Mexique, il a toujours une référence avec la Suisse. Sur ce même chapitre, tout à coup, on se retrouve au Petit Saint-Bernard, par exemple.
C'est le besoin de faire des raccourcis pour sa famille, évidemment, expliquer en détail chaque colline. C'est fort difficile, donc en faisant référence au Jura ou à un village bernois, il met tout de suite ses correspondants dans la situation. Il les met aussi tout de suite en situation quand il dit que ces superbes fermes bernoises en fait sont effectivement de quelques cabanes mal aguerries où la nourriture est détestable, où il doit, et là il reprend son attitude d'Européen, où il doit chasser les propriétaires pour y loger la nuit, dont il se conduit de façon assez insupportable.
On peut dire assez cavalier. Il y a une description assez ahurissante aussi où il est coincé dans un village et il demande à Perrault d'aller chercher un endroit un peu mieux protégé dans ce hameau parce qu'il a, il faut le dire, un peu la frousse d'imaginer ces parois de hutte simplement en natte et en bois et quelqu'un qui pourrait lui tirer dessus. Alors il se protège dans un endroit qui... Il dit bien carrément que c'est un endroit de défense et on le voit sortir son fusil et viser un papier qui est à 200 pas et par hasard, et là il le dit bien dans sa lettre, par hasard faire mouche. Hein. On voit très bien le geste du cowboy avec le papier paf qui explose comme cela au moment où la balle l'atteint et puis toute la population de ce petit village qui est complètement atterrée parce qu'il imagine que pour eux on ne peut pas tirer si ce n'est à bout portant, c'est-à-dire à quelques dizaines de pieds seulement et de voir si loin. Une réussite de tir, ça a dû être... Voilà le genre de choses dont il s'enorgueillit et dont il parle dans ses lettres, non ?
D'ailleurs, il s'est bien gardé de tirer un second coup. Parce que, évidemment, après avoir fait mouche au premier, l'effet était voulu. Mais, disons, cette attitude du village à son propos était bien justifiée de la part des villageois, puisque, en fait, il est allé... il a fait une filouterie d'auberge caractérisée. Mmh. Mais estimant que ni le gîte, ni la nourriture étaient à la hauteur de ces messieurs européens... Il a pris arme et bagages et il est allé ailleurs. Et en fait, le propriétaire de cette auberge s'est fâché, a refusé l'argent en disant « vous me payez totalement ou rien ».
Ça, c'est aussi un geste assez local. Hein. Là, on sent bien la vitalité et le sang chaud du Mexicain. Au moment où on lui rejette son argent, lui dit bien « en tant que genevois, je l'ai repris et je l'ai mis dans mes poches hein. ». C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il reprend son argent et qu'il n'ose pas le laisser parce qu'il a sûrement été jeté soit sur la table, soit au sol. Et puis ensuite, il y a ce refuge que j'évoquais avec le fusil. Et puis sa description de la guarda, puisqu'on est à la guarda, qui signifie bien ce qu'elle veut dire, c'est un endroit à protéger. Et là, il nous décrit justement ce petit Saint-Bernard avec une impression assez curieuse, parce que quand il dit petit Saint-Bernard, c'est aussi un endroit isolé, un peu fou. Chaque fois qu'il a une description, il nous remet en même temps en condition par rapport aux gens qui y vivent. Et là, la description de l'auberge et ce que vous venez d'évoquer était très forte. Est-ce que vous avez une autre anecdote ou un autre endroit qui vous a touché par rapport à cette façon de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que vous avez par exemple une rencontre avec un général ou je ne sais pas, allez-y.
Le général Huerta,
en
pleine révolution, un jour il avait décidé d'aller chercher des sauve-conduits pour passer les lignes. Et il est allé voir le général Huerta à Morelia. Alors il a pris son cheval, laissé ses compagnons, parce que je pense qu'il estimait que c'était plutôt une charge d'aller visiter Huerta avec ses compagnons que d'y aller seul. Il est parti seul voir Huerta avec quand même une lettre de recommandation d'un ami de Mexico. Et là, il s'est conduit presque en grand seigneur vis-à-vis de Huerta, d'égal à égal au moins.
Huerta, c'était quand même le grand général de l'époque, c'est celui qui commandait pratiquement le Mexique
armées du Sud,
et ouais. Toutes les armées du Sud. Ouais. Ouais.
Et il s'est conduit, disons, voilà, il me faut un sauve-conduit. Et Huerta lui a très aimablement fourni ce qu'il demandait, et il est reparti en tirant son chapeau mutuellement.
Enfin, cette insolence dont on parlait tout à l'heure aussi, parce que vis-à-vis de l'aubergiste ou sa façon même de se comporter face à un village, il y a une certaine insolence qui a quelque chose de superbe en même temps. Est-ce qu'il donne au cours de votre travail, c'est-à-dire d'avoir relu toutes ces lettres, est-ce que son caractère est un caractère extrêmement transparent? Est-ce que c'est un homme qui a vraiment de la noblesse, autant dans sa façon de fonctionner que son arrière? Est-ce qu'on peut le trouver intègre quand on a rencontré par ses lettres privées Henri de Saussure?
Intègre, oui, absolument. Intègre, parce qu'il a toujours l'honnêteté de revenir sur un jugement qu'il estime a posteriori comme faux. Il est totalement intègre et il est capable de dire le pire et le meilleur à partir du moment où il estime que c'est plus... L'exemple, par exemple, c'est Santa Anna. Quand il est arrivé au Mexique, il avait une certaine admiration pour Santa Anna. Et petit à petit, il a pu, avec les documents qu'on lui présentait, il a pu changer son jugement, reviser son jugement. Et là, il est revenu complètement à une autre opinion. Donc il est très intègre, ça c'est sûr.
Quand on écrit ou quand on a travaillé plusieurs années comme vous l'avez fait, et que finalement on offre à n'importe quel lecteur ce voyage aux Antilles et au Mexique de 1854 à 1856, qui est édité, pour ne pas la nommer, aux éditions Olizan, est-ce qu'on change sa façon de voir un naturaliste de l'époque? Est-ce que vous avez beaucoup appris, dites-moi, Louis de Roguin, ce que, par rapport à votre métier, cet homme vous a appris par ses lettres privées? On parlait d'intégrité tout à l'heure. Pour un scientifique d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer l'apport d'un Henri de Saussure?
Le premier fait à signaler, c'est que de Saussure avait entrepris son voyage quasiment sous la dictée de Humboldt. Donc Humboldt lui avait écrit une longue lettre dans laquelle il lui a dit « Veuillez faire ceci, veuillez faire cela, aller à tel endroit,
ramassez-moi
des échantillons sur tel volcan. Mm-hmm. » Et de Saussure avait son voyage déjà tout préparé. Ensuite, c'est son inspiration personnelle ou ses goûts personnels qui l'ont fait varier ou changer de but ou de méthode. Mais son métier de naturaliste elle-même, c'est un métier intemporel. On doit ramasser du matériel, l'étudier, le déterminer, le classer.
Mais pour vous, est-ce qu'il y a eu un déclic de Saussure? Est-ce qu'après avoir travaillé comme cela quelques mois, Claude Weber, est-ce que vous avez l'impression que cet homme vous a un tout petit peu changé votre vision de naturaliste?
C'est difficile à dire. Je pense que ce qui est le plus admirable chez Henri de Saussure, c'est son modernisme dans sa façon de concevoir le travail de naturaliste sur le terrain. Et au fond, on retrouve plus Henri de Saussure dans les méthodes actuelles d'investigation sur le terrain que de la façon dont c'était fait à cette époque. Et là, on en vient au problème qu'il a eu vis-à-vis de Humboldt, qui était un peu... on en revient toujours à Humboldt.
Hein, oui, bien sûr.
Saussure, c'est incroyable, mais c'est un peu son... Ça a été son père spirituel au départ, probablement. Et il a eu une grande déception parce qu'il se rend compte que Humboldt a fait certaines de ses études un peu en dilettante. Et ça, il ne pardonne pas à Humboldt. Il ne pardonne pas parce qu'il estime qu'un scientifique doit être rigoureux. Et ça, c'est la base de toute recherche. C'est la...
Une critique très forte, en fait, par rapport à un grand personnage comme Humboldt.
Ah oui, il n'y a pas de préjugés.
Claude Weber a évoqué tout à l'heure le côté critique d'Henri de Saussure, qui a voyagé entre 1854 et 1856 au Mexique, à l'égard de Humboldt, qui l'avait précédé. Or, c'est vrai que même dans les descriptions de paysages du côté de Pátzcuaro, quand il relit, on a l'impression qu'il suit, un peu comme on aurait un guide bleu aujourd'hui, ou un guide de voyage, ou son Baedeker du début du siècle, et qu'on lise le guide et se dise « Non, ça, c'est, la description ne me correspond pas du tout, ce lac n'est pas le plus beau du monde, c'est vrai que les îles sont superbes, il décrit la couleur de l'eau et finalement c'est du jaune, c'est de la boue, ce sont les marécages en bordure qui lui plaisent pas, il a plein d'aventures, il n'arrive jamais à trouver le bateau ni les voiles qu'il imaginait et qu'il verrait sur le Léman. » Il peut être extrêmement dur dans ses descriptions. Puis tout à coup, il a des lettres, au contraire, où il s'envole en décrivant une hacienda, la façon de s'occuper des taureaux, la façon d'y vivre. Et là, on se sent bien. On se dit, tiens, voilà un Mexique qu'on a l'impression qu'on peut rencontrer aujourd'hui parce qu'on est plus riche, parce qu'on a changé aussi. Et puis en même temps, il y a tout à coup l'endroit qui fait tilt comme ça dans son voyage, où on sent une sorte de balancier. Nous étions sur les terres froides, elles sont plus difficiles que les terres chaudes. J'entends l'apport et la qualité de vie à cause des guerres, à cause des problèmes politiques. Terre froide, c'était aussi terre de guerre et terre difficile. Et tout à coup, il y a un mot comme cela qui se glisse dans une lettre et il semble que le balancier vient de changer. Nous étions un peu négatifs, on va devenir positifs et on regrette presque un peu Sartorius avant de l'avoir rencontré.
Le Mirador, l'Estancia du Mirador, c'est le paradis, c'est une faune extraordinaire, c'est pas loin du Pico d'Orizaba.
Une estancia, c'est bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, comme pour une hacienda, c'est un lieu. Et puis il tombe dans un lieu qui lui paraît quand même un peu paradisiaque. Il y a là d'abord, je crois que la première chose qu'il nous dit, c'est que c'est quelque chose de magnifique. Et puis il y a un homme quand même qui est derrière. Il y a la main de quelqu'un qui est européen. Je crois que ça lui fait du bien aussi. Il y a un agriculteur allemand. Et il parle de production immédiatement. Il y a des milliers, je crois 15 000 arobes de sucre. Donc on imagine ces plantations de canne à sucre incroyables. Et il parle de chiffres extrêmement précis. Il parle d'argent. Il fait presque une véritable comptabilité de l'endroit. Et puis en même temps, qu'est-ce qui l'a fasciné dans cet éloge? Parce que c'est bien un éloge qu'il nous fait là de Sartorius.
Monsieur Sartorius est un personnage très curieux, très mystérieux aussi. Il a participé à la bataille de Waterloo. Il a émigré au Mexique rapidement pour des raisons probablement politiques, on ne sait trop. Et en fait, il découvre chez Sartorius un curieux de la nature extraordinaire, une personne vraiment passionnée par tout ce qui l'entoure.
Comment est-ce qu'il l'a rencontré? Parce qu'en fait, là, on saute un peu du coq à l'âne. Nous étions en Mexico, on arrive à Pátzcuaro, on visite une hacienda, on fait un voyage. Bon, il y a une carte dans votre livre, parce qu'il est aussi un peu à vous, bien sûr, même si c'est de Saussure qu'il a au départ écrit. Mais on a l'impression qu'il y a un parcours et qu'il y a des rencontres un peu fortuites. Alors, comment est-ce qu'on rencontre ce monsieur Sartorius quand on est de Saussure en 1855, déjà 6, non?
Bientôt 6. Mmh. On le rencontre parce que c'est quand même un personnage qui reçoit beaucoup de naturalistes, parce que au Mexique, cette période a été une période d'un départ de recherche. Il y a eu M. Salé, il y a eu aussi d'autres scientifiques français qui sont venus et qui ont visité le Mirador. C'est un petit peu le point de ralliement d'une certaine coterie scientifique.
C'est la bonne adresse.
C'est la bonne adresse.
Comment est-ce que vous voyez, sans y avoir été, Louis de Roguin, cet endroit qui s'appelle El Mirador, c'est-à-dire l'observatoire, l'endroit. El Mirador, quand on voyage au Mexique aujourd'hui, c'est toujours un lieu dit, c'est toujours un endroit qui fait déjà rêver avant d'y arriver. On se dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à voir, justement. Mirar, c'est bien regarder. Comment est-ce que vous avez, vous, ressenti El Mirador à travers les lignes de Saussure? Qu'est-ce que vous iriez chercher aujourd'hui?
Ben, en arrivant là-bas, je verrais d'abord une immense propriété, très belle, très bien tenue, avec une partie consacrée à l'agriculture, bien rentable, bien planifiée, et puis une partie laissée aussi à la nature, avec beaucoup de gibier, des forêts splendides, naturelles, et certainement aussi beaucoup de fleurs. Enfin, c'est vraiment l'image du paradis que de Saussure a ressenti.
Est-ce que vous avez pu la visionner à travers ces lignes? Est-ce qu'il est assez bon J'entends que pour quelqu'un qui empoignerait ce livre pour la première fois et qui aurait envie de s'y lancer comme on utilise un livre de chevet, est-ce qu'on est transporté? Moi, je connais l'endroit, je connais le Mexique. J'imagine fort bien les forêts et l'ambiance d'une estancia entre Jalapa et le pic d'Orizaba. Il y aurait énormément de vaches aujourd'hui, il y aurait peut-être un peu moins de canne à sucre, il y aurait un peu de café en plus, il y aurait des produits nouveaux par rapport à 1850. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui, dès qu'on y pénètre, dès qu'on passe à cette altitude, on sent la richesse, on a envie de faire des calculs immédiatement. Et on sent que les gens du lieu sont riches, même s'ils vivent comme ça un peu loin de tout. Est-ce que vous trouvez qu'en utilisant cet ouvrage comme un livre de chevet, pour quelqu'un qui connaît, on est transporté? Ou quelqu'un qui ne connaît pas, on est transporté aussi?
Certainement. Les évocations sont très fortes. Tant les évocations positives que les négatives. De Saussure est un très bon écrivain. Et il a un vocabulaire extrêmement riche et précis. Et il dit souvent aussi, ah, si j'avais les pinceaux de Töpfer, je ferais des images magnifiques.
Il dessine pourtant.
Il dessine, oui.
Assez mal.
C'est des croquis croquis de terrain.
Par rapport à Töpfer, qui a un côté plus croqué, plus gai. Disons, par rapport aussi aux gens de l'époque. C'est-à-dire, en 1840, on utilisait déjà la camera oscura ou des choses qui permettaient d'avoir un dessin extrêmement précis. Ces croquis à lui sont de vrais croquis. Il n'a jamais cherché à nous offrir une aquarelle. Par contre, alors dans les codex de tout à l'heure, on voyait la précision un peu diabolique qu'il a voulu nous transmettre par de véritables calques. Si vous étiez vous-même au Mirador, Claude Weber, qu'est-ce que vous y feriez? Parce que Perrault s'est beaucoup ennuyé au Mirador, son collègue.
Perrault, c'est très ennuyé parce qu'au fond, c'est sa paresse naturelle qui prenait souvent le dessus. Une paresse naturelle aux yeux d'Henri de Saussure. Je pense qu'il était totalement éreinté, semi-craste. Peut-être que Marc qui arrivait à maintenir le rythme d'enfer.
Là, vous parlez des personnages qui l'accompagnaient. Ils étaient combien, tout quatre?
Ils étaient quatre, mais en fait, on pourrait dire deux fois deux Saussure et puis des demi-compagnons parce que totalement inefficace à ses yeux, en tout cas. Mais au Mirador, pour revenir à ces lieux, une chose extraordinaire qu'a dû découvrir de Saussure, c'est quelqu'un qui peut tout de suite lui dire, voilà, ici vous allez trouver ça, ici vous allez trouver ça, ici vous allez trouver même une forteresse indienne au fond de ma propriété, entre deux vallées. C'est fantastique. Il a eu des raccourcis. Tout de suite, il a pu passer à l'action, disons, il a pu récolter tel et tel animaux à tel et tel endroit, des chevreuils, des oiseaux. Enfin, ça a été très riche, point de vue récolte zoologique.
Donc, il n'y avait pas seulement le paradis, il y avait celui qui lui offrait les clés. Il y avait un Saint-Pierre.
Voilà, exactement. Et Sartorius, pour lui, à ses yeux, est devenu de plus en plus un homme extraordinaire. Quelqu'un de passionnant qui l'a tout de suite pris en affection, on peut dire.
Quand vous parlez de ruines au fond de la propriété, il est descendu ensuite sur la côte. Et sur cette côte, je fais volontiers le détour de Veracruz. Quand on va sur Jalapa, je m'efforce souvent de perdre 4 heures de route, pas toujours très bonne, parce qu'avec la saison des pluies, tout à coup, des milliers de nids de poules rongent l'asphalte. Mais il y a un site qu'il a découvert un peu avant tout le monde, c'est El Tarín. El Tarín, curieusement, il a envie de protéger, et ça c'est une des premières fois qu'on le voit sous la plume de quelqu'un, parce que 1850 c'est quand même très neuf, il y a eu Carswood, il y a eu certains prédécesseurs, mais son idée de protéger un site archéologique qui aujourd'hui est absolument incroyable et est devenu une des fortunes culturelles du passé précolombien, c'est assez curieux. D'être dans ces terres chaudes, de découvrir la fameuse pyramide des niches qui aujourd'hui a été complètement restaurée, où l'on voit ces 365 niches et puis cet étagement étrange qui nous fait vraiment penser à la pyramide type qui nous fait rêver du Mexique ancien. Et lui a une idée non seulement de naturaliste, mais là de carrément de restaurateur ou de protecteur.
Au départ, il a découvert cette pyramide dans l'univers pittoresque. C'est un peu le livre de géographie et d'histoire qu'on pouvait trouver à l'époque, avec beaucoup de représentations gravées, d'ailleurs de très belles factures. Et quand il est arrivé là, il s'est rendu compte que l'image qu'il en avait était une image idéalisée, en fait, et que le vandalisme avait fait beaucoup de dégâts. Et son premier mouvement, c'est de se précipiter chez le préfet pour demander un acte de protection. C'est quelque chose. On en revient au modernisme d'Henri de Saussure. Il est très moderne.
Oui, parce qu'il fallait penser, à la même époque, n'importe quel scientifique européen aurait plutôt piqué un ou deux cailloux, et voir les fameux bas-reliefs qui sont connus à El Tarin. Et puis en conclusion de ce voyage que nous avons vécu sur 2 heures de long cours, il y a un peu son adieu au Mexique. Là, il nous reste quelques secondes, mais c'est vrai que c'est très touchant de lire sous sa plume cet adieu au Mexique qui devient un beau Mexique, qui devient... il y a de beaux déserts, il y a des routes, il y a des lieux qui tout à coup l'habitent. Comment est-ce que vous avez ressenti ces quelques mots, je dirais presque d'adieu à ce pays, Louis
Lorgan? C'est un adieu tout à fait romantique. Il dit adieu au pays, il dit adieu au paysage, il dit adieu aux arbres, et il dit surtout adieu à une vie de liberté qu'il a extrêmement appréciée. Il était seul, roi de la terre, roi des déserts. Et je crois qu'il regrette beaucoup de partir pour rejoindre l'Europe et retrouver sa routine quotidienne.
Claude Weber, si vous aviez une plume à cet instant de l'écriture, comment est-ce que vous vous seriez replacé là dans cette façon de parler du soleil, des forêts qu'évoquait Louis Droguin, de ce pays avec un côté, en fait c'est plus tout à fait une prose, ça devient carrément de la poésie, là c'est du lyrisme absolu.
C'est poétique, c'est un l'éloge du Mexique, c'est ce pincement du cœur qui ressort sous l'écriture. Le pincement du cœur parce qu'il sent que même s'il a des envies de revenir au Mexique, ça tient plus du rêve que de la réalité.
Oui, parce que quand on dit l'Indien libre comme l'air adore à deux genoux le soleil à son lever, adieu forêts immenses qui n'ont pas leur pareil, adieu toi liberté grandiose, adieu mon cheval. Et il parle de ma selle, de mes pantalons de cuir qui suffisaient à mon être ici-bas. Adieu tous ces détails d'une vie sauvage où, roi des déserts et presque des populations, ma volonté était la seule obéie. C'est en même temps l'image du... Il y a un côté Lucky Luke, là, il y a un côté cowboy, il y a un côté grands espaces. Au fond, il s'est rendu après son voyage, il s'est rendu compte finalement que le Mexique était plus vaste et plus riche que les chocs qu'il a reçus et qui étaient de la difficulté.
Et l'homme s'est transformé.
Et c'est vrai qu'on sent la transformation, j'entends l'acceptation même. Vous parliez tout à l'heure de sa façon d'avoir vu le caractère de Huerta. Il semble que tout à coup, après ce voyage dans les terres chaudes, remonté dans les terres froides, redescendu, on a l'impression que tout à coup, il a été converti au Mexique, ou plutôt que le Mexique a fini par le convertir. Mais c'est plus seulement une parole de naturaliste, là. C'est l'homme qui parle. Un homme qui, après tout, pourrait sentir aussi que le canton de Genève était peut-être plus étriqué qu'il le pensait, et que ses descriptions suisses étaient peut-être plus éloignées de l'ampleur du pays. Là, vous êtes en train de dire oui du chef, Louis Droguin. Est-ce que vous auriez senti cela aussi à sa place?
Je crois même qu'il appréhendait de revenir en Europe pour retrouver, comme je le disais, sa routine quotidienne, ses problèmes de famille et de finir la liberté.
Il préférait l'écrire de loin?
Je pense aussi qu'il y a une chose très importante, c'est qu'en Europe, l'attendait sa femme, en fait. Il allait se marier en arrivant. Et c'est peut-être une des seules choses qui l'a fait revenir.
Ah, il fallait l'amour, tout en ayant des amours au Mexique, parce que ce sont des amours naturels, celles du Mexique, incontestablement, d'un naturaliste.
Oui, un naturaliste heureux, en fin de compte, d'avoir vu ce pays. Mais un naturaliste qui, plus tard, reviendra toujours au Mexique. Toujours. C'est le fil conducteur de son existence.
On ouvre son livre et on y va.